15 juin 2017, cours de Rav Bereshi sur l'influence de l'étude de la Torah dans le monde, sur le monde.
Alors, bonsoir à tous. On remercie d'abord moi aussi, hein, personnellement, monsieur et madame Guetta. Madame Guetta surtout, en précision. Et aussi tous ceux qui se sont déplacés de près ou de loin. Donc regardez, je vous propose quelques gemarot que nous allons étudier ensemble. Et on va commencer par une gemara dans Maseret Avodah Zara, que vous avez peut-être déjà entendu, étudié, mais avec un petit approfondissement ici. Une gemara qui est assez étonnante, qui nous dit que dans les temps futurs, l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah entre guillemets dans ses bras et va dire les miche asakba yavo vitol scharo, celui qui s'est investi asakba, qui a étudié, qui s'est investi dans l'étude de la Torah, qu'il vienne prendre un salaire, son salaire pour son investissement tout au long de sa vie dans l'étude de la Torah. Donc on se situe là l'Atid Lavo, les temps futurs, au moment où Vaya Hashem le Melech al Kol Haaret, ce jour-là où Dieu est reconnu de tous, la vérité est dévoilée, Akadosh Baruch Hu s'adresse au monde et dit voilà, celui qui s'est investi dans l'étude de la Torah, les Mishé Asak, c'est celui qui s'est investi, pas seulement celui qui a lu, qui a étudié, mais qui s'est travaillé dur pour l'étude de la Torah, qui vienne prendre son salaire. Alors c'est qui se présente? Qui vous proposez? Qui va venir? Les Chachamim, ceux qui ont étudié un peu, les grands, comme vous dites, les grands rabbinim. Qui ont du mérite, effectivement, comme vous dites, tous ceux qui se sont investis. Mais la Gemara nous étonne et nous dit, vous savez qui est-ce qui arrive? Ce sont les Goïm qui arrivent. Les Goïm. Les Goïm, pas moins que les Goïm, ils arrivent tous ensemble, comme ça, Be'ar Boubia, tous ensemble. Donc à chaque fois, l'Agma rapporte des psukim dans le Nar, dans Yeshaya, pour illustrer tout cela. Et Akadosh Baruch Hu dit non, pas tous en même temps, un après l'autre. Alors qui commence? Qui est-ce qui arrive? Eh bien les premiers, c'est Edom, c'est les Romains. Ah, les Romains, ils viennent. Pourquoi les Romains? Parce que les Romains, bon, c'est la malchoute la plus... le règne qui était le plus important. Et donc, nous dit la Gemara, ce sont les Romains qui arrivent et Akadosh Baruch Hu leur dit, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes investi dans l'étude de la Torah, paraît-il? Vous venez réclamer un salaire? Ils disent oui. Maître du monde, on a fait beaucoup de marchés, beaucoup de bains publics, beaucoup d'or et d'argent nous avons rapporté dans ce monde. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi on a fait tout ça? Pour le peuple d'Israël. Et pourquoi pour le peuple d'Israël? Pour qu'il puisse étudier la Torah. Alors si vous voulez approfondir, vous regardez le Maharal ici. Le Maharal, il explique exactement pourquoi Rome, avec les marchés, avec les bains publics, il rapporte qu'il y avait des villes où il y avait des centaines de marchés, c'était Rome. Des marchés, l'or et l'argent. Donc il y a beaucoup de profondeur ici que nous explique le Maharal de Prague sur les Chidushé Agadot, sur la Gemara. Et donc ils viennent, les Romains, réclamer un salaire parce qu'ils se sont investis toute leur vie dans l'étude de la Torah, puisque tout ce qu'ils ont fait sur ce monde, sur ce bas monde, c'était pour les Juifs, bien sûr, et pour la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit « Shotim Shebaolam ». Le terme de « Shotim » est à traduire dans le sens « Vous êtes des sots, des idiots, des fous », c'est-à-dire « Non, vous ne pouvez pas recevoir de récompense. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez fait, c'était pour vous. » C'était dans votre intérêt, comme Akadosh Baruch Hu le répond à chaque chose. Bon, ils sont sortis, les Romains, un peu déçus. Et à ce moment-là, c'est Paras, c'est les Perses qui arrivent après. Malchut Paras. Là encore, le Maharal dit Paras et Ishmael. C'est la même chose, Paras et Ishmael. Donc Ishmael qui arrive et qui dit, eh bien, nous aussi, on vient prendre un salaire pour ce qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu demande, qu'est-ce que vous avez fait? Alors eux, ils disent, eh bien, on a fait des ponts. On a conquis beaucoup de villages, hein, beaucoup de villages on a conquis ici, on a fait beaucoup de guerres. Et les guerres que nous avons fait, tout ça pour qui? pour le peuple d'Israël. Et pourquoi le peuple d'Israël? Pour qu'il puisse étudier la Torah. Ah, c'est magnifique, ça, c'est beau. Comment, bonsoir, les nations du monde viennent réclamer tous un salaire parce qu'ils ont tous œuvré pour le peuple d'Israël. Bon, bien sûr, l'agma continue, il y a encore les autres qui arrivent, tous, et ils ont tous la même réponse. Pour le traduire aujourd'hui, c'est simple, hein, vous avez l'Europe, l'Amérique, la Russie, tous, tout ce qu'ils ont fait dans leur monde, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont investi, c'est seulement pour le peuple d'Israël et pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu leur dit à chaque fois, Shotim Shebaolam, sauf vous ne méritez pas de salaire parce que ce que vous avez fait, c'était pour vous. C'était pas pour les Juifs. Bon, juste je termine, mais l'essentiel, c'est ce que nous avons vu. Mais la Gemara nous explique que donc les Goïms vont dire, bon, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que nous, on n'a pas pu étudier la Torah comme les Juifs, mais tu ne l'as pas donné, la Torah. Alors, comment je ne voulais pas donner? Je voulais proposer, j'ai été d'abord, vous la proposez, vous l'avez refusée. Alors les Goïms disent, oui, c'est vrai que tu nous l'as proposé, mais tu ne nous as pas forcé à prendre la Torah. Alors que les Juifs, tu les as forcés. Alors, Akadosh Baruch Hu leur dit, bon mais regardez, vous avez 7 mitzvot que je vous ai données, et vous ne les avez même pas accomplies. Alors, les Goïms, bon, une dernière chance, on ne peut pas avoir un petit quelque chose. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, d'accord, je vais vous donner une mitzvah. Il leur donne la mitzvah de Soukha. Et les Goïms vont tous construire une belle soukha. Et Dieu va faire sortir un soleil, comme au soleil au mois de Tammuz, donc c'est bientôt, là, le mois d'août, comme ça, un soleil assez fort. Il fait tellement chaud, les Goïms sortent de la soukha en donnant un coup de pied à la soukha. La Gemara dit, et alors, nous aussi, on est dispensés de la soukha lorsqu'il fait trop froid ou trop chaud. Trop froid, ça on connaissait lorsqu'on était en Côte d'Arrée. Trop chaud, on ne connaissait pas ça là-bas. Mais ici, des fois, hein, il faut mettre la clim. Hein, quand vous prévoyez la soukha avec nous, mettez la clim dans la soukha aussi, parce que des fois, il fait très chaud dans la soukha. On peut être patour de la soukha. Alors la Gemara dit, c'est vrai que les Juifs sont aussi dispensés de soukha lorsqu'il fait trop chaud. Mais ils sortent sans donner de coup de pied, comme vous le dites. C'est, ils sortent doucement en embrassant la soukha, en disant, bon, on n'a pas pu accomplir la mitzvah, alors que le goy, il sort et il donne un coup de pied. Donc ça, c'est une Gemara qui est marquée au début de Maseret Avodah Zara, ce qui se passera dans les temps futurs. C'est vrai que ce n'est pas tellement compréhensible lorsqu'on arrive à cette époque où la vérité va être dévoilée dans le monde. Il n'y a pas une plus grande, on peut dire, j'irais utiliser un mot un peu fort, une plus grande chutzpah comme ça du monde, une insolence de venir et de réclamer un salaire parce qu'ils ont tous investi pour la Torah, tout ce qu'ils ont fait c'était pour la Torah. Vous allez entendre que celui-là, mais Trump et notre, et tout ça, tout ce qu'ils ont fait c'est tout pour la Torah, la Torah, la Torah, pour le Ham Israël. Le Rav de Brisk, dans son sévère, le Brisk de Moav, explique et rapporte que c'est étonnant, mais Dieu ne leur dit pas vous êtes des menteurs. Il leur dit vous êtes des sots, vous ne méritez pas de salaire. Il leur dit vous êtes des menteurs, vous n'avez pas fait ça pour les Juifs. Alors il donne une très belle explication, une explication profonde. Il dit comme ça. Au contraire, dans les temps futurs, lorsque la vérité sera dévoilée, le monde entier va s'apercevoir qu'ils ont tous œuvré que pour le peuple d'Israël et pour qu'ils puissent étudier la Torah. Comment cela? Eh bien, je vous ramène d'abord au premier mot de la Torah, Bereshit. Vous savez que Bereshit, c'est le premier mot de la Torah que l'on traduit tous
au commencement,
qui n'est pas la bonne traduction, nous dit Rashi. Parce que Rashi sur place dit que Bereshit, si on voulait dire au commencement, fallait dire Barishona. Parce que Bereshit en hébreu, le Tav à la fin, est en réalité toujours, doit être relié à quelque chose. Bereshit, Mamlechet, Bereshit, quelque chose, au début de. Et là on a au début, Bereshit, Bara, Elokim et Hashemayim et Haaretz, ça ne marche pas. Rashi propose, peut-être que Bereshit, Bera, Hashem et Hashemayim et Haaretz, au début que Dieu a créé son monde, il a créé le ciel et la terre. Là encore dit Rashi, ça ne marche pas, puisque ce n'est pas le ciel et la terre qui ont été créés en premier. Rashi termine et nous dit, en vérité, l'explication simple du pasouk, c'est la dracha. Et c'est quoi la dracha? Une dracha, une explication de Chachamim. Bereshit, c'est Bereshit, pour Reshit. C'est qui Réchit ? Dit Rashi, c'est pour Am Israël qui est appelé Réchit. Et Réchit, c'est pour la Torah qui est appelée Réchit. C'est-à-dire, Bereshit, pour le Am Israël qui est appelé Réchit. Et pour la Torah qui est appelée Réchit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est le premier Rashi, hein, au début de Sefer Bereshit. Ce n'est pas Barishona, au début Dieu créa le ciel et la terre, puisque Dieu ne commença pas par créer le ciel et la terre, Rashi le dit, comme on voit que le ciel il a été composé de d'eau. Donc il y avait d'abord de l'eau. Hein. Et puis, Ruach Elohim et Rachef et Alpene Amaim sur l'eau, donc il y avait déjà de l'eau. Donc ce n'est pas le ciel qui a été créé en premier. Rashi explique donc, Bereshit, pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël et pour la Torah qui est appelée Reshit, le monde a été créé. Hein? C'est bon, hein? C'est à notre avantage. Le monde a été créé pour l'étude de la Torah et pour donc du Ham Israël. Donc c'est vrai que si le peuple d'Israël est le but de la création, donc on imagine bien que tous ceux qui ont été créés ont certainement quelque chose à faire avec ce qui est le but de la création. Il y a un Rambam dans le début de son commentaire sur les Mishnayot de Seder Zraim. C'est un Rambam qui est assez dur. La vérité, il est un peu dur, le Rambam. Mais comme c'est le Rambam, donc je peux vous rapporter ce qu'il dit, mais sinon, vous pourriez dire que j'exagère un peu, je suis un peu extrémiste en moi. Mais le Rambam, il explique au début que donc le but de la création, c'est pour ceux qui vont étudier la Torah. Alors il a une question, le Rambam. Il dit, mais si c'est comme ça, Dieu n'a pas créé quelque chose pour rien. Dieu n'a pas créé dans son monde d'avar larik pour rien. Donc si le tahlit, le but de la création, c'est Am Israël, pour que Am Israël puisse étudier la Torah, donc pourquoi Dieu a créé tout ce monde qui nous entoure? Tous ces yitzurim, toutes ces créatures, tous ces goyim qui sont autour de nous, pourquoi Dieu les a créés? Tous ceux qui ne recherchent pas la chorma, dit le Rambam. Et la majorité des gens ne recherchent pas la chorma, recherchent la ta'avad, mais les envies, le monde, ne recherchent pas. Et celui qui recherche la chorma dans ce monde, la Torah, dit le Rambam, il est Yachid ben Rabim. Il est un parmi ceux qui sont nombreux. Alors nous dit le Rambam, tu sais pourquoi toutes ces créatures sont là? Peut-être deux explications. Première explication, il dit, parce que l'homme, qui est le but de la création, s'il devait lui aussi subvenir à ses besoins, c'est-à-dire pour pouvoir s'habiller, il aurait dû apprendre comment on va faire des fils de laine. D'abord, comment on va tondre le mouton, comment on va préparer des fils et comment on va ensuite faire des habits. Lorsqu'il va vouloir manger, il va devoir apprendre comment on va labourer le champ, semer du blé, mbesbé. Il va avoir tellement de choses à apprendre et à faire qu'en fin de compte, il n'aura pas le temps d'étudier. Il n'aura pas le temps de se consacrer à ce pourquoi le monde a été créé. Donc nous dit le Rambam, c'est pour cela que HaKadosh Baruch Hu a créé des tas de gens autour de nous pour que toutes ces personnes-là puissent nous aider à accomplir ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Et comme dit le Rambam, il y a une phrase qui est reprise et qui est bien connue, « Loulé amishtagim nishar haolam charev ». Si ce n'est pas qu'il y a des fous dans le monde resterait charev, détruit, c'est-à-dire un peu vide. Pourquoi, dit le Rambam? Vous avez un brave monsieur qui va faire le tour du monde pour gagner de l'argent, pour essayer de ramasser un peu de sous, pour pouvoir ensuite revenir et se construire un palais. Alors que lui, le temps qui lui reste à vivre, il lui suffirait d'une petite cabane, une petite maison. Et pourtant, il va construire un édifice, une maison tout entière. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Il va se mettre en danger, il va aller... Pourquoi tout ça? Tu n'as pas besoin de tout ça pour vivre. Pourquoi? Il dit, loulé amishtagim, s'il n'y avait pas des gens fous comme ça, eh bien le monde il serait désert, il n'y aurait que des petites cabanes. Il y a des gens qui nous entourent, pas nous, hein, il y a des gens qui nous entourent, qui sont le Rambam, qui sont fous. C'est-à-dire qu'ils vont voir dans la construction de ce monde le but de la création du monde. Et ils vont le construire, le peupler, l'arranger. Et nous, à Israël, on va profiter de cela. On va profiter de tous ceux qui sont là pour nous aider à pouvoir étudier la Torah. Vous savez, aujourd'hui, ce soir, combien il y a de gens qui ont participé et qui participent à notre étude? Combien il y a de gens? Il y a des centaines, des milliers. Non? Regardez la table sur laquelle... et les nappes, et ce que nous mangeons, et les assiettes, et les chaises, et le marbre, et la lumière, et les fenêtres.
Oui, le
permis. Et tous ceux qui sont venus de loin, les voitures. Combien il y a de gens qui ont participé? Donc lorsque... L'Atit Lavo, la vérité va être dévoilée au monde. Vous imaginez bien que les Chinois là-bas de l'autre bout du monde qui vont dire, si cet appareil-là qui permet à d'autres juifs de pouvoir écouter ou de réécouter le cours, s'il est là, posé sur cette table, c'est grâce à nous. Et la mère qui a amené cet nouveau monde, qui a eu l'idée de faire, et qui a, elle va dire aussi, moi aussi j'ai une part. Et en vérité, ils ont tous raison. Parce que dans... le plan divin, ils étaient tous là et ils sont tous venus pour pouvoir nous permettre de nous réaliser à travers l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Donc le monde entier, les goyim sont tous là. Lorsque les Atid Lavo, la vérité va être dévoilée, chacun d'entre eux va se rendre compte qu'ils ont participé au projet divin du Ham Israël, du peuple d'Israël, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Le Rambam continue même et nous dit, vous savez que, dit le Rambam, il rapporte et il dit parfois, il dit, tu me poseras encore une question, tu me diras, mais alors si c'est comme ça, donc tu es en train de dire, le Rambam, qu'il y a celui qui étudie, celui donc Am Israël qui étudie, qui est à la tête et tous sont là pour le servir. Mais parfois, on voit d'autres gens qui ne sont pas particulièrement intelligents et qui n'étudient pas du tout. Ils sont à la tête de grosses entreprises et tous les gens sont là pour les servir. Et donc, si le but, c'est pour la Torah, là, c'est pas pour la Torah, là, c'est pour quelqu'un qui, lui, au contraire, ne connaît rien, n'étudie pas et n'étudiera pas. Alors, dit le Rambam, c'est vrai. Mais lui, il va demander à un de ses ouvriers de construire un palais, et que ce palais servira peut-être à un juif pieux à passer, souffrir du soleil, et il va se mettre quelques minutes s'asseoir ou profiter de l'ombre du mur de cette grande maison. Donc tout le but de la création aussi de cet homme, c'est pour Am Israël. Donc ça sert à ma voix, il est un peu quand même un peu dur, hein, le Rambam, il va loin, hein. C'est-à-dire de dire oh, oui, tout le monde entier, vous savez, on dit, c'est la faute toujours des coiffeurs et des juifs. Hein, vous posez la question, pourquoi des juifs? Moi, je vous pose aujourd'hui, pourquoi des coiffeurs? C'est vrai que c'est tout à cause des juifs, à cause et grâce. Puisque le monde entier, naît, son axe, c'est le peuple d'Israël. Donc, nous sommes tous là pour nous étudier la Torah, accomplir les mitzvot d'Hachem, et le monde qui nous entoure, tous ces goïms qui sont là, ne sont là que pour nous permettre de pouvoir y arriver.
Mais pourquoi les goïms? Pardon. Issachar et Zvouloun.
Pardon.
Le principe de base, c'est Issachar et Zvouloun. C'est pas les juifs et les goïms.
Non, pas tout à fait, puisque d'abord, même le Zvouloun, il a aussi une part à étudier. Vous êtes d'accord? Et si vous regardez, il y a quelque chose d'assez étonnant. Mais lorsqu'on regarde dans la Mappa, lorsqu'on regarde un peu dans l'un des Shvatim, on se rend compte que Issachar et Zvouloun, c'est quelque chose de très spécial. Puisque on a une Gemara où vous savez que les Nessim, les Raché, Baté, Dinim, ils venaient de quelle tribu? Yehuda, pas de Issachar. Donc les Dayanim, les Raché, Sanhedrim, c'est marqué qu'ils venaient tous de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Les Kohanim et les Lévim, ils étaient consacrés au service du Beth Amikdash, et aussi c'est marqué dans le Rambam, le Shevet Lévi à l'étude de la Torah. Combien de jours travaillaient les Kohanim au Beth Amikdash? Vous savez que les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot, chaque Mishmar était divisé, donc pour chaque Mishmar avait une semaine, et dans cette semaine ils étaient divisés en Baté Avot. Donc Baté Avot, on travaillait, le Kohen travaillait, un jour sur 24 semaines. Un jour sur 24 semaines, donc Bien sûr, les fêtes, ils se retrouvaient tous, mais combien les Kohanim travaillaient? Donc, on a combien de semaines dans l'année? Une cinquantaine? Deux jours dans l'année, rajoutez un peu les fêtes, allez, on veut dire cinq, une dizaine de jours dans l'année où les Kohanim travaillaient au Beit HaMikdash. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dit le Rambam, ils étaient consacrés à l'étude de la Torah. Donc, on a les Kohanim qui étudient, les Lévim qui étudient. On a les Rachet Sanhedrin qui se trouvent descendants de la tribu de Yehuda. On a Dan qui étaient donc les Dayanim. Et on a encore les... Vous savez que dans la paracha, on voit que les Bnega des Bnei Rouven ont demandé à habiter de l'autre côté. Et on voit que Moshe Rabbeinu leur a donné encore Chatsi Shevet Menaché. Pourquoi il leur a donné Chatsi Shevet Menaché? Ils n'ont pas demandé d'être de l'autre côté. Pourquoi on les a envoyés là-bas? Eux, ils voulaient être en Eretz Israël. Eh bien, explique le Netziv, c'est que il fallait aussi des Talmidei Chachamim qui puissent aller enseigner la Torah au Bnei Gad ou Bnei Reuven, et c'était le Chatsi Shevet Menaché où il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim. Donc on se retrouve que dans le Klal Israël, presque on se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait Issachar et Zvouloun? Puisque des gens qui étudiaient, il y en avait énormément, il y avait tous ceux pour être Dayan et pour être Rach Sanhedrin, il me semble qu'il faut quand même étudier de longues années. Donc Akadosh Baruch Hu a prévu, on va dire que tout le Ham Israël est une part dans cette étude de la Torah, chacun en fonction de son, de ses possibilités. Et donc pour cela, il nous a donné autour tous les goyim qui vont être là pour nous permettre d'accomplir cela. On ne peut pas, vous voyez que même aujourd'hui, c'est qui construit les maisons? Ce ne sont pas les juifs qui construisent des maisons. On a encore des goyim qui sont là pour nous aider. Donc lorsqu'arrivent les Atid Lavo, et donc là que reprend le Rav de Brisk qui nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu leur dit Shotim, vous êtes sots, vous êtes idiots, il ne leur dit pas vous êtes des menteurs. Il dit c'est vrai. Lorsque la vérité sera dévoilée, chaque goy dans le monde va se rendre compte qu'il a participé indirectement, quelque part, directement, indirectement, au projet divin que le Ham Israël, qui est le but de la création, puisse accomplir les mitzvot et puisse étudier la Torah. Donc ils vont tous se présenter devant Dieu, comme nous dit l'Agma dans Maseret Avodah Zarah, et réclamer pour cela un salaire. Dieu va leur dire, vous ne méritez pas de salaire, étant donné que vous n'avez pas eu la kavana, vous n'y avez pas pensé. Lorsque vous avez fait tout cela, c'était pour vous. C'est vrai que si vous y avez pensé, vous auriez eu un salaire pour cela. Parce que dans le fond, c'est vrai, l'égoïme, tout ce qu'ils œuvrent, tout ce qu'ils font, c'est pour le Ham Israël. Donc déjà là, nous voyons notre... Eux ne le savent pas. C'est vrai, eux ne le savent pas.
Quand il s'agit de réclamer leur salaire, ils le savent. Ils ont
ici. La chose a comprise.
Vous savez, dernièrement, il n'y a pas si longtemps de ça, j'étais à Sarcelles et j'ai rapporté dans une dracha cette explication-là de la Gemara. Mais seulement à ma dracha est resté le maire, M. Pouponi, si vous connaissez, avec sa femme, était là pendant toute la dracha. Alors j'ai eu un peu de mal au début parce que je me suis dit comment se garder, mais comme c'était ce que j'avais prévu, j'ai décidé, après bien sûr m'être concerté avec un rav de sur place, de dire ce qu'il m'a dit de manière... Les Corses, ils ont l'habitude d'encaisser, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis adressé directement à Dieu. J'ai dit, tout dépend de votre intention. Tout ce que vous faites, puisqu'il venait juste de dire avant qu'il avait beaucoup de projets pour la communauté juive, etc. J'ai dit, tout est une question de kavana. Si vous avez la kavana, vous voulez faire pour le Ham Israël, vous recevrez pour cela un salaire. Mais je pense que lorsqu'on leur dit la vérité, c'est à ce moment-là qu'ils l'acceptent. Lorsqu'on veut leur cacher la vérité, c'est mieux. Bon. En tout cas, ça c'est une Gemara que tout le monde peut étudier, tout le monde peut voir. Les Goyim, ils la connaissent aussi, peut-être pas tous, mais certainement beaucoup d'entre eux.
Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec dans le Kriyat Shema, on dit Vasafta de Ganer. Le peuple d'Israël doit travailler aussi.
Effectivement. Alors, vous savez qu'il y a une Gemara dans Brachot, où il y a un machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Où là-bas, Rabbi Ishmael dans la Gemara pose la contradiction entre ces deux versets. Où d'un côté c'est marqué « Ve'asafta diganecha », donc c'est toi qui le feras. D'un autre côté, il y a marqué que ce sont les goyim qui le feront. La Gemara, elle dit « Kan kishosim retzono shel makom, kan shen osim retzono shel makom ». C'est-à-dire que lorsqu'on fait la volonté divine, alors les goyim seront pour nous, seront là. Lorsqu'on ne fait pas, on n'accomplit pas la volonté divine, alors c'est à nous de faire ce que les autres normalement auraient dû faire. Ça, c'est ce que la Gemara nous rapporte dans Maseret Brachot au début du sixième Perek. Je sens que c'est Daf Lamedvav.
Les Juifs aussi travaillent, œuvrent pour ce monde, pas seulement avec la Torah, on voit avec Poudre Nouvelle, avec les chimistes, les.
Vous avez raison, mais de toute manière, ça sera toujours indirectement lié à la possibilité du Ham Israël de pouvoir accomplir les mitzvot, donc mieux encore, une autre facette, mitzvot, l'étude de la Torah, tout ce qui est dans ce monde, c'est le but de la création du monde.
C'est ce que
s'applique à nous aussi. On peut nous-mêmes œuvrer pour que l'on puisse nous, ou pour que puisse un autre aussi étudier la Torah, mais dans le fond, tout ce que l'on veut, tout ce qu'on œuvre, toute notre. Notre but dans ce monde-ci, c'est pour Am Israël, l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Et ça, on...
Un moyen encore plus profond de comprendre la Torah, c'est de lier justement la Torah et l'étude de la Torah et les mitzvot avec le monde dans lequel on vit. Vous connaissez cette fameuse dracha à propos du Pirkei Avot qui disait « Mayafé ilanze ». Celui qui dit ça, celui qui regarde un arbre, il mitraïe benafcho. Et alors, il y a un commentaire qui dit en fait c'est quoi ? C'est que celui qui dissocie son étude de la Torah avec la nature, avec la beauté de la nature, celui qui pense qu'il s'agit ici de deux mondes séparés, entre d'un côté le monde de la spiritualité, le monde de la Torah, et de l'autre côté le monde de la nature, celui qui dissocie ces deux mondes-là, il travaille avec le degré le plus ultime de la compréhension de la Torah et de la compréhension des mitzvot, c'est de comprendre que c'est un seul Dieu qui a donné la Torah et qui a créé le monde avec toutes les lois physiques. Et plus on arrive à comprendre que c'est le même créateur et que tout fonctionne dans le but de la Géoula, et plus on arrive à unifier ces mondes-là, et plus on fait avancer la Géoula. Donc ça comprend aussi le fait de travailler. Parce que le travail, c'est le tikkun olam. Et plus on travaille, et plus il y aura des médecins, plus il y aura des ingénieurs compétents en Israël. Et plus
religieux. Et
quoi ? Religieux, c'est évidemment. À ce moment-là, mais même les non-religieux font le tikkun. Font le tikkun de la voyage sans le savoir. Donc, et plus il y aura des gens comme ça, et plus à ce moment-là, on arrivera vers la Géoula. Parce que la Géoula, c'est quoi ? C'est comprendre que le Kodesh et le Chol, c'est un seul monde qui est avec des degrés différents entre le Kodesh et le Chol, mais c'est un seul spectre de création de Dieu. Voilà. Et qu'il n'y a pas de dichotomie entre le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité. Je viens même d'écrire un livre là-dessus.
Enfin, on sait ça.
Avec un discount.
Moi, j'ai mis une fois que le chomer sera plus sain.
La matérialité va s'élever au niveau de la spiritualité.
Parce que, en fait, c'est seulement avec la matière qu'on peut
arriver au
spirituel. Tout à
fait. Donc, le premier point que nous avons vu ici à travers cette Gemara, c'est que le but de la création du monde, c'est Am Israël. Et le but de la création du Ham Israël, c'est la Torah que Kadosh Baruch nous a donnée. Lorsqu'on continue dans plusieurs Gemarot que je vais vous rapporter, nous allons voir quelle est l'influence directe et indirecte qu'apporte l'étude de la Torah dans le monde. Nous avons d'abord une Gemara dans Maseret Shabbat. La Gemara dans Maseret Shabbat, Daf Petet, nous rapporte qu'au moment de Matan Torah, la Gemara nous rapporte un passouk qui nous dit « Eretz yara veshakta ». La terre a eu peur, veshakta. Ensuite, elle s'est apaisée, elle s'est calmée. Pourquoi la terre a eu peur ? Parce que, nous dit la Gemara, la terre a eu peur que Am Israël n'accepte pas la Torah. Et alors ? Parce que, comme c'est marqué au début de Bereshit, Vayi Ere, Vayi Boker, Yom Hashishi. Le Hashishi, c'est quoi le Ha, le He? Hashishi, le sixième jour. Tous les jours de la création, c'est marqué Vayi Ere, Vayi Boker, Yom Had, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hashishi avec un He. C'est quoi le He? Nous dit la Gemara, le Yom Hashishi, c'est une drasha de Resh Lakish. Akadosh Baruch Hu a émis une condition avec Maase Bereshit. Il leur a dit, le Hashishi, c'est le 6 Sivan. C'est-à-dire que si Am Israël accepte la Torah le 6 Sivan, alors le monde continuera d'exister. Sinon, je vous ramènerai, dit la Torah au Maaseh, à Tohu Vavohu. C'est-à-dire que ce monde qui a été créé au Maaseh Bereshit était en suspens jusqu'au 6 Sivan, plus de 2000 ans plus tard, où le Am Israël, le peuple d'Israël, devait accepter la Torah. La terre, Yara, a eu peur. Juste avant Matan Torah, la terre, elle a dit, et si Am Israël n'accepte pas la Torah, on revient tout à Tohu Vavohu. Ensuite, lorsque Am Israël a accepté la Torah, Shakta, elle s'est calmée. Donc déjà, nous voyons que combien Am Israël a apporté à l'humanité en acceptant la Torah. Puisque si on n'avait pas, ce grand jour-là, accepté la Torah, le monde serait revenu à Tohu Vavohu. C'était une condition avec Maaseh Bereshit. Vous n'êtes là que jusqu'au moment, à condition que, donc, Am Israël accepte cette Torah. Donc ça voudrait dire, lorsqu'on voit cette Gemara, qu'une fois que nous avons accepté la Torah, bon, ça y est, on est tranquille, le monde continuera, la création ne sera pas arrêtée, et ça y est, la condition a été remplie. Mais Rabbi Chaim de Volozhin, dans son fameux Nefesh HaChaim, nous dit qu'en vérité, il rapporte donc aussi une source où le monde est constamment relié à l'étude de la Torah. Et s'il y a un moment, un instant, où l'étude de la Torah va être interrompue dans le monde tout entier, par tout l'âme israélien, personne qui étudie pendant une seconde, le monde revient à Tohu Vavohu. C'est-à-dire le maintien de ce monde ne peut se faire que parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui étudie. Lorsque le soir vous allez un jour du Daf Yomi, vous allez le matin à une petite étude, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est grâce à vous que le monde continue.
Après Kippour.
Peut-être que, voilà, après Kippour, à un moment où ça y est, les gens vont manger, vont se reposer. Il faut qu'il y ait toujours une continuité dans l'étude.
Si vous permettez, j'ai entendu que c'est pour ça que l'Amérique était découverte.
L'Amérique a été découverte.
Parce que comme il n'y avait plus la force d'étudier malgré tout sur une carte, il fallait qu'il y ait un décalage horaire.
C'est peut-être voilà, qu'il y a le décalage horaire, les fuseaux horaires. C'est pour cela peut-être qu'il y a eu les fuseaux horaires, pour que l'on puisse à chaque instant, il y a...
Et qu'il y ait des juifs qui puissent aller s'installer.
Alors donc bien sûr, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu veut que son monde continue d'exister jusqu'à la fin des temps, qui est la fin du sixième millénaire, comme c'est marqué dans la Gemara. Le monde a été créé pour 6000 ans. Il ne nous reste pas beaucoup de temps encore, 200 et quelques années. Après, le monde revient à Tohu Vavohu, avant qu'il y ait ensuite le septième millénaire qui sera le Olam Haba. Puisque le Olam Haba, ce n'est pas maintenant. Lorsque Parvinan, quelqu'un décède, il ne va pas au Olam Haba. Il va au Gan Eden. Gan Eden, c'est d'une certaine manière la salle d'attente jusqu'au Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le septième millénaire. Ça, c'est rapporté dans le Sefer Haïkarim du Ramchal, la fin de son Sefer Derech Hashem. Le Ramchal, Moshe Chaim de Sato l'explique bien, c'est vrai qu'il y a dans cela beaucoup de, on va dire, de machlokot, il y a de Rambam et le Ravat, comment on saura la Kriyat HaBetim, ça, c'est un cours en soi pour développer tout cela, mais ce qui est marqué dans le Ramchal, c'est que le monde se terminera à la fin du sixième millénaire, donc dans 200 et quelques années, et il y aura, donc, on reviendra à Tohu Vavohu, et à Kadosh Baruch Hu va créer un nouveau monde, le septième millénaire qui sera le Olam Haba. Donc en attendant, les âmes sont où? Dans le Gan Eden, donc une âme, c'est-à-dire en salle d'attente avant d'arriver au Olam Haba. Donc le projet divin est que ce monde tienne jusqu'à la fin du sixième millénaire. Akadosh Baruch Hu fait en sorte, donc comme nous a dit Jean, peut-être d'avoir découvert l'Amérique, en tout cas qu'il y ait une continuité dans l'étude de la Torah. Parce que s'il y a un moment où on n'étudie plus, il n'y a plus de monde. Donc là encore, nous voyons notre responsabilité, pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes, de nos mitzvot, mais vis-à-vis du monde entier. On ne peut pas savoir si ce n'est pas nous qui, à chaque instant, vont essayer de maintenir ce monde-là. Donc ce que je voulais vous rapporter à travers ces deux enseignements, c'est que d'abord, lorsqu'on parle d'influence de l'étude de la Torah dans le monde, on voit que si le monde a continué d'exister après...
Pourquoi on est perdant si le monde n'existe plus?
On n'est plus là.
On n'est plus là, on ne le sait pas.
Il n'y a plus de mitzvot, là.
Oui, mais tout nous importe.
Vous savez, la volonté de l'homme, c'est de vivre.
Oui. Hein?
Vous vous poserez la question pourquoi, c'est vrai que c'est un débat, mais la volonté de l'homme c'est de vivre, on veut vivre. L'homme sera prêt à tout faire pour vivre, il va lutter pour vivre. Moi, il y a quelque chose. Maintenant c'est vrai qu'il faudrait comprendre pourquoi on a été créé, pourquoi, mais de toutes les manières, il y a des choses qu'on ne comprendra pas, mais on a été créé comme ça et on veut vivre. Maintenant, on ne veut pas vivre pour nous-mêmes, on veut vivre pour HaKadosh Baruch Hu, mais une fois qu'on a été créé, d'une certaine manière, l'homme veut vivre pour lui-même. Le monde entier, l'Ngoyim, tout le monde cherche à vivre. Donc, est-ce qu'on gagne ou on perd? Il est évident qu'on gagne à vivre. Il est évident que l'on gagne à arriver à la fin du projet divin, puisque, d'une certaine manière, si Dieu nous a créés, c'était pour nous, dans notre bien. C'est vrai que c'est, encore une fois, comme on dit, un autre jour, un autre débat, de savoir pourquoi on a été créé, pourquoi ces mitzvot. Dieu a-t-il besoin que je mette les tefillines? Il n'a pas besoin, il a besoin que j'étudie, il a besoin que je fasse des mitzvot, il n'a pas besoin de tout ça, c'est pour moi. Maintenant, pourquoi, pour moi, dans quel sens, dans quel nom? Ça, c'est à approfondir avec donc, des sources à l'appui.
C'est vrai que pour aller plus loin, des fois, il est tellement moche que s'il n'existait pas, ce serait mieux. Quoi.
C'est ce que l'on croit. Mais d'une certaine manière, il a son tikkun. Donc, nous voyons à travers ces deux premières, ces deux enseignements. Un, que le monde a continué donc d'exister grâce au peuple d'Israël qui a accepté la Torah le 6 Sivan, c'est ce fameux Yom HaShishi, le sixième jour du mois de Sivan. Donc Dieu avait dit au moment de la création, attention, tout ceci n'est que stand-by, on attend que Am Israël accepte cette Torah. Une fois que Am Israël a accepté la Torah, ouf, ça y est, le monde va continuer maintenant. Mais attention, il y a encore une condition. Il faut que le monde, qu'il y ait toujours une chaîne d'études dans le monde, même si ce n'est qu'une seule personne, afin que ce monde puisse continuer d'exister. C'est vrai qu'il y avait de grands hachamim qui, la main de Yom HaKippurim, une fois que Yom HaKippurim était terminé, ou lorsqu'on avait terminé toute la veillée de Shavuot, Shana Rabba, n'allaient pas se coucher et restaient encore étudier, se disant que peut-être, lorsque tout le monde va dormir, c'est maintenant le moment d'étudier pour que ce monde puisse continuer. En tout cas, ça, on ne peut pas le savoir si on n'était pas le maillon dans la chaîne. Mais peut-être que HaKadosh Baruch Hu nous dira un jour, Monsieur Elia, grâce à vous, le monde a continué. Parce que ce jour-là, où vous n'aviez pas les forces et vous avez quand même ouvert votre livre et vous avez dit, je vais étudier, à ce moment-là, vous étiez le seul à étudier, et grâce à vous, le monde a continué, donc vous aurez le mérite surtout aussi de tout ce qui est arrivé.
Ça, ça motive. Hein.
Le sage-poix, parce qu'il va, après, il va nous faire une...
il va vous demander des intérêts. Il va vous demander des salaires. Maintenant, je vais vous rapporter une autre idée. Où nous allons voir que, et ça, c'est le texte que nous voyons dans la Gemara, où d'une certaine manière, plus il y a d'études dans le monde, et plus on apporte à ce monde-là. Et plus le monde va en bénéficier. Comment cela? Nous allons voir à travers plusieurs gemaras. Nous avons une gemara dans Maseret Sanhedrin. Dans Maseret Sanhedrin, c'est marqué, c'est d'un Aïn Aleph, où la gemara nous dit, vous connaissez certainement cette Mishnah, le sommeil chez Na la Rechaim, lorsque les Rechaim dorment, Hana'a la Em va Hana'a la Olam. C'est bon pour eux et c'est bon pour le monde. C'est bon pour eux parce qu'ils ne font pas de Averot, mais pour eux c'est bon pour nous aussi. Ils ne font pas de Averot, ils ne vont pas, entre guillemets, j'utilise un terme un peu, ils ne vont pas polluer le monde. Mais la Tzadikim, Ra la Em, lorsque le Tzadik il va dormir, c'est mauvais pour lui. Vera la Olam. Et c'est mauvais pour le monde. Pourquoi c'est mauvais pour le monde? Rashi nous dit Vera laolam. Donc les tzadikim ralaem parce qu'ils n'étudient pas quand ils dorment. Vera laolam sha Torah shehem oskim magina al ador. La Torah lorsqu'ils étudient va protéger le monde. Donc shehem mitbatlim pour anud balaolam. Et lorsque même pour aller dormir il arrête d'étudier, il y a des malheurs qui arrivent sur le monde. Un peu dur ça. Voilà. Ça veut dire que lorsqu'on va dormir, on doit se dire, regarde, tu vas dormir, tu fermes ton livre, va savoir qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Il y a un lien entre ce qui se passe dans le monde, les malheurs et le bonheur dans ce monde lié avec l'étude de la Torah, mais pas seulement quelque chose de personnel entre moi, ma Torah et ma vie, mais même entre le tzaddik et le monde. Le tzaddik, il va dormir, le monde, il va empirer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre son étude et pour un autre balaur. Nous avons une autre Gemara, et ça nous allons le voir aussi, d'illustrer un peu plus. Nous avons une Gemara, ça aussi vous la connaissez toute cette Gemara. La Gemara nous dit, vous connaissez la fameuse Mishnah, « Kol Israël Eshlem Chelek L'Olam Haba ». Tout le monde connaît, hein ?« Kol Israël Eshlem Chelek L'Olam Haba ». Vous savez qu'il y a une suite à cette Mishnah ?« Ve'elu She'en Laim Chelek L'Olam Haba ». Et voici ceux qui n'ont pas Olam Haba. C'est drôle, hein ? Nous, on ne connaît que la première. On est toujours gentil. « Kol Israël Eshlem Chelek L'Olam Haba ». Mais il y a une suite qui dit « Et certains n'ont pas Chelek L'Olam Haba ». Qui ? Ce sont ceux... Non, même ceux qui disent la Torah ne vient pas du ciel, n'existe pas, et tout ce que nous connaissons, toutes les tout celui qui ne croit pas, en triatametim, la Torah, il n'y a pas triatametim dans la Torah, même s'il dit il y a triatametim, mais ce n'est pas marqué dans la Torah, il n'y a pas de source dans la Torah, il est aussi, il y a marqué la Pachelek Lamba. Et entre autres, c'est marqué dans la Gemara, il y en a un qui s'appelle le Apikoros. Apikoros, c'est un mot un peu dur à traduire en français. Pas comment vraiment on le traduit ce mot apikoros, mais le terme de apikoros est un peu. Et qui est-ce qui rentre dans cette.
Mécréant
ou celui qui est athée. En tout cas, la Gemara nous dit, vous savez qui est-ce qui est appelé. Qui est-ce qui est appelé apikoros? Et la Gemara va nous dire quelque chose là de très très dur et de pas simple. La Gemara nous dit, c'est quoi le apikoros? C'est celui qui dit Mai Ahanulan Rabbanan. Qu'est-ce que celui qui étudie m'apporte à moi? L'edidou karou, l'edidou tanou. Il étudie pour lui, karou c'est la Torah, le Chumash, et tanou la Mishnah. Ce qu'il fait c'est pour lui. C'est à titre personnel. Qu'est-ce qu'il m'apporte à moi? À moi. Voilà, j'ai que vous étudiez la Torah. Qu'est-ce que vous m'apportez à moi? Si, dit la Gemara, quelqu'un s'exclame ainsi et dit, mais il étudie pour lui, pas pour moi, il rentre en apikoros. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de si mal? C'est une question que des fois on entend, hein, des gens se posent la question, qu'est-ce qu'il apporte? Alors nous dit la Gemara, parce que c'est marqué, Imlo briti yomam valaela chukot shamaim varetzo samti, si je n'ai pas mon alliance jour et nuit, les lois de la nature, donc du ciel et de la terre, je n'ai pas mis. Et dit Rashi, parce que celui qui va étudier la Torah apporte quelque chose dans ce monde. Il est méhané ce monde, il apporte dans ce monde quelque chose. Et lorsque moi je dis il n'apporte rien, donc je nie l'enseignement de la Torah qui dit que l'étude de la Torah apporte une influence dans ce monde-ci. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il va m'apporter de l'abondance dans ce monde. Lorsque il y a plus d'études, il y a plus d'abondance. Moins d'études, il y en a moins. Comment cela? On a une autre Gemara que je vous rapporte dans ma Sechet Baba Batra. Une Gemara qui est une histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il y a eu un moment de famine. Et à ce moment de famine, Rabbi Yehuda Hanassi a dit tout celui qui étudie, peu importe qu'est-ce qu'il étudie. Tu étudies du chumash, vakasha, tu peux venir manger. Bien sûr, les mefarshim expliquent qu'il n'y avait pas de danger de vie et de mort. C'était, en plus, chacun avait de quoi manger pour vivre, pour, on va dire, pour ne pas mourir, mais pour vivre un peu mieux, Rabbi avait des otsavot, c'est-à-dire il avait des réserves, et il a dit, voilà, la porte est ouverte à tout celui qui veut. Celui qui étudie du Chumash, vous étudiez du Chumash, vous étudiez donc Baalé Mikra, Baalé Mishnah, vous pouvez rentrer, Baalé Gemara, Baalé Halakha, Baalé Agada, vous étudiez des Agadot, ça vous plaît les Agadot, c'est de l'étude, vous pouvez rentrer. Aval Amea Aretz Ali Kansu. Amar, celui qui n'étudie pas, qui ne rentre pas.
Oui, c'est ça, il a donné à manger. Il leur donnait à manger.
Il leur donnait à manger. Donc il n'y avait pas de pikuach nefesh, puisque s'il y a pikuach nefesh, on sait qu'on ne fait pas de différence, même la raison lui donne à manger, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais si c'est des surplus, nous dit l'Agmara, Amaret, qui ne rentre pas. Bon, il y a un élève, Rabbi Yonatan ben Amram, un élève de Rabbi, que Rabbi ne connaissait pas, donc c'était un élève dans l'assemblée, mais il n'avait pas l'air de connaître tout le monde, il avait exactement beaucoup d'élèves, il lui a dit, Rabbi, donne-moi à manger. Il dit, tu as étudié un peu de Chumash? Il lui dit non. Et un peu de Mishnah? Il lui dit non. J'ai rien, je connais rien. Il lui dit, alors pourquoi je vais te donner à manger? Alors il lui a dit, donne-moi à manger au moins comme un chien ou comme un corbeau. Alors Rabbi, bon, il lui a donné. Et une fois qu'il lui a donné, Rabbi, il était mitzta'er. Il a dit, aïe, j'ai donné à manger à Amaretz. Mais alors, c'est Rabbi Oudan, Nassi, qui était l'une Nassi, responsable du Ham Israël, c'est comme ça qu'il s'adresse. Il dit, bon, Amaretz, alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas lui donner à manger? Alors, bien sûr, on est venu lui dire, Rabbi Shimon, son fils, est venu lui dire, tu sais, c'est peut-être Yonatan ben Amram, ton Talmid, que lui n'a pas voulu profiter de son étude de la Torah. Donc, il est venu, il t'a dit, moi, je n'ai rien. Mais en fait, c'est certainement quelqu'un qui étudie. On a cherché, on a vu que c'était vrai. Alors, Rabbi, il a dit, top, c'est bon. Alors, Rabbi, il a dit, bon, puisque je vois que certains se gênent, on laisse la porte ouverte à tout le monde. La Gemara dit, pourquoi Rabbi était si sélectif? Il dit parce que Rabbi dit En pour Anout Balaola Bishvila Maharetz. Les malheurs arrivent dans le monde à cause de ceux qui n'étudient pas la Torah. Ah. C'est dur, hein? Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, vous étudiez la Torah, peu importe combien vous étudiez, mais vous étudiez la Torah, vous apportez quelque chose dans ce monde. Vous apportez l'abondance dans ce monde. Donc si on est dans un moment de famine, où il y a des difficultés, il n'y a pas suffisamment de quoi manger pour tout le monde, Rabbi dit, qui est fautif? Le manque d'études de la Torah dans le Ham Israël. C'est-à-dire, on est un peu trop plongé dans notre vie de tous les jours, il nous manque un peu d'études, jusqu'à présent, on étudiait une heure, on a diminué une demi-heure, ça apporte un peu de famine. Tu rajoutes, il y a plus d'abondance. La Gemara nous rapporte une histoire. Si cette histoire n'était pas marquée dans la Gemara, on aurait dit que c'est une exagération complète des Chachamim. Alors écoutez ça. Toujours avec Rabbi. Il y avait dans la ville de Tveria un gouverneur non juif qui avait imposé un impôt à tous les juifs de la ville. Vous devez payer de l'argent pour m'acheter là une couronne. Il voulait refaire sa couronne et l'impôt c'est sur qui? C'est sur les habitants de la ville. Top. Ils sont arrivés, donc, les notables de la ville devant Rabbi. Ils ont dit il faut ramasser de l'argent, que tout le monde participe. Ils ont dit que tous ceux qui sont chez vous, vos étudiants, payent aussi. Rabbi, il a dit non. Il a dit comment non? Pourquoi ils ne font pas partie de la ville? Il a dit non, eux, ils ne payent pas. Alors les gens, ils ont dit ah bon? Eh bien, si c'est comme ça, on s'en va. Et on va vous laisser tout seul. Et une fois que vous serez là tout seul, même c'est bien vous qui allez payer cet impôt. Rabbi, il a dit, vous pouvez partir. Il y a la moitié qui sont partis. Tout d'un coup, nouveau décret qui arrive de la chambre du gouverneur, je vous fais une réduction de 50% les juifs. Ah, ça a l'air un peu... l'image, c'est un peu trop quand même. Mais bon, c'est ce qui est marqué. On sait que ce qui est marqué... C'est aussi à prendre à la lettre, dites-moi. Même si il y a des soldats, des pauvres, mais c'est aussi à prendre à la lettre. Il y a aussi explication. Alors, l'autre moitié arrive devant Rabbi et dit, Kodarav, maintenant il reste la moitié à payer, il faut aussi que vous participiez. Rabbi, il a dit non, on ne paye pas. Il a dit, on ne paye pas, on s'en va. Il a dit, partez. Ils sont partis et il n'est resté que un Koves, un laveur, un teinturier. De Ben Ishraï sur place, il explique pourquoi lui il est resté. Il dit, lui, il se considérait Talmid Chacham. Donc il a dit, moi, je peux rester. Bon. Il y a eu tout d'un coup un message du roi. On vous fait une réduction de 99%, juste que un paye. Ce laveur-là qui était resté, il a compris, il a dit, je m'en vais. Il est parti. C'est marqué que Werner, il a dit, c'est bon. Je vous fais une réduction complète. Vous n'avez pas besoin de payer. Rabbi leur a dit, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Les malheurs, les difficultés arrivent à cause de ceux qui n'étudient pas. On étudie, on aura de bonheur. plus on étudiera et plus on aura de l'abondance dans le monde, on aura tout ce qu'il nous faut. C'est vrai que c'est un peu spécial, hein, non, dans la Gemara, de voir. Mais bon, c'est marqué dans la Gemara. On ne va pas l'effacer, cette Gemara. Sur le reste, toutes les questions de mie et de mort, de gré, on se base sur la Gemara. Donc là, on ne va pas se baser sur la Gemara. Donc nous voyons ici que pas seulement l'étude de la Torah va apporter dans le maintien de ce monde, qui ne revienne pas à Tohu Vavohu, etc. Mais plus Am Israël va étudier la Torah, et plus le monde sera dans l'abondance, dans la prospérité. Moins il y aura de Torah, et plus le monde y sera. Ça s'applique donc, effectivement, au niveau général, mondial. Est-ce qu'on peut quand même diviser par pays, par endroit ? Alors je vous propose encore une autre Gemara, dans Maseret Ta'anit.
Est-ce qu'on étudie aujourd'hui une influence au Népal ?
Alors, est-ce qu'il y a une influence au Népal ou influence ailleurs ? Alors, regarde.
C'est l'effet papillon, c'est pas.
Il y a une Gemara qui ne dit pas exactement comme cela. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Il dit le pasuk nous dit Ki ke'arba ruchot ha-shamayim pirashti etrem neum ha-shem. Comme les quatre coins du monde, je vous ai éparpillé, parole d'Hachem. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire ? Akadosh Baruch Hu dit au Am Israël, je vous ai éparpillé dans les quatre coins du monde. Alors, il fallait marquer dans, pas comme. Alors, la Gemara nous dit, Achi Kama, de la même manière, donc Ta'anit Dav Gimel Amoudbet, page 3, Amoudbet, de la même manière que le monde ne peut pas tenir sans les ruchot, sans les vents, et Karba ruchot, il y a des vents, comme c'est marqué dans Bara, et le vent souffle. Il y a quatre vents dans la journée, qui sont des quatre points cardinaux. Chaque vent a un moment précis. Après, ce que nous voyons dans Ramadan, nous savons qu'à tel moment de la journée, ça passe de tel vent à un autre, d'un autre endroit. On pourrait même à Khatsot de la nuit voir exactement le monde Khatsot en fonction du vent qui change de direction. De la même manière que le monde ne peut pas tenir sans le vent, parce que le vent va aider au refroidissement de la terre, dit Rashi, et que si il n'y a plus de vent, le monde va se réchauffer tellement qu'il ne pourra plus continuer. De la même manière, dit la Gemara, Iefshar Leolam Belo Israël. Le monde ne peut pas tenir sans Am Israël. Ça veut dire quoi ? Dit Rashi. Le monde ne peut pas tenir. Pourquoi ? Parce que le monde ne se maintient que pour Israël. Bon, et alors, dit Rashi. Donc voici ce que le pasouk veut dire. Comme les Ar Baruchot, je vous ai éparpillé, c'est-à-dire je vous ai éparpillé aux quatre coins du monde. Pourquoi ? Pour que le monde puisse se maintenir. C'est-à-dire de cette Gemara, nous voyons que pas seulement donc, notre influence, on va dire, notre étude est sur le monde, mais en plus il faut se trouver aussi un peu partout dans le monde. Alors bien sûr, d'ailleurs, il y a un moment de galoute, il y a un moment où le même Israël se retrouve sur sa terre. Il faut le comprendre là dans l'Agma, dans les moments de galoute où Akadosh Baruch Hu est éparpillé. Peut-être qu'à ce moment-là, le tikkun est différent. Mais d'une certaine manière, lorsque le Am Israël est éparpillé dans les quatre coins du monde, c'est pourquoi ? Pour que le monde puisse être maintenu. C'est-à-dire que on ne peut pas se suffire juste d'être dans un endroit précis, dans le moment de la galoute. Il faut être un peu partout, parce que l'influence de nos actes va avoir un kiyum, une influence sur le monde tout entier. Donc le Am Israël se trouve partout. On trouve le Am Israël ici, là, dans les quatre mois, dans tous les pays du monde, quasiment tous les pays du monde, on se trouve où il y a eu le Am Israël qui était là. Bon, beaucoup de pays, vous voyez que lorsque le Am Israël est sorti de ce pays, le pays, il est là. Tant que le Am Israël se trouvait dans le pays était prospère, et ça, il ne manque pas. Non, bien sûr, vous allez me trouver aussi d'autres cas où c'était le contraire. Bon, il y a toujours des exceptions, il y a d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte, sinon on n'a pas de libre arbitre, puisque si c'était tout comme ça, aussi évident, donc on aurait toujours mis un tapis rouge devant Am Israël. Mais en tout cas, ce que nous voyons encore de cette Gemara, c'est que nous aidons au maintien de ce monde, pas seulement pour sa continuité, mais aussi dans sa qualité, dans son avant, dans ce qu'il y a dans ce monde. Et si le monde est prospère, il y a un monde où il y a une abondance, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement parce que le Am Israël se trouve un peu partout, Et le Ham Israël, par l'accomplissement de ses mitzvot, par l'étude de la Torah, apporte cette influence dans le monde. Donc, vous imaginez bien la responsabilité que nous avons, puisque, d'une certaine manière, c'est ce que Dieu nous a donné, mais, comme nous a dit tout à l'heure, bon, peu importe si dans le monde il n'y a pas ou il n'y a pas d'abondance, c'est vrai. Mais ce que l'on peut retirer au moins comme conclusion, c'est de voir la force de notre étude. C'est-à-dire, la force de notre étude, ce n'est pas seulement une étude personnelle. C'est vrai que lorsque j'étudie la Torah, c'est pour accomplir le commandement divin, tu dois étudier la Torah, c'est ainsi que l'homme va se parfaire, mais d'une certaine manière, Dieu veut aussi que notre étude ait une influence sur le monde, et ça nous montre la force de cette étude, au point que si quelqu'un viendrait dire un jour, ce que tu étudies là, c'est pour toi, ça n'apporte rien à personne, eh bien il rentre dans le cadre de Apikoros. Non, l'étude que vous allez ou que vous avez ce matin, elle m'a apporté à moi. Comment, quoi, ça je ne sais pas. Un jour viendra, c'est ce moment, l'Atid Lavo, où on verra la vérité qui sera dévoilée, et à ce moment-là, on aura tellement de surprises que tout celui qui a participé à ce projet, tout ce qui a participé à ce que l'on puisse encore étudier un peu de Torah, viendra simplement réclamer à Kadosh Baruch Hu, donne-nous à nous aussi une part de salaire, puisque toute mon existence sur ce monde, hein, même la mère du japonais ou du thaïlandais là-bas, qui l'a élevé, qui l'a fait grandir, ou son arrière-grand-mère, dira tout ce que moi j'ai mis plus, c'est seulement pourquoi, pour qu'un jour mon petit-fils puisse vous inventer quelque chose qui vous servira à vous, âme Israël. Seulement, ils ne mériteront pas de récompense parce qu'ils n'ont pas eu cette kavana. Mais dans le fond, ils ont raison. Donc ça, c'est ce que je voulais vous apporter, vous faire partager aujourd'hui, dans ces quelques gemarot que nous avons vus. Et c'est vrai que lorsqu'on est venu ensuite, on a encore des tas d'exemples, mais c'est assez, c'est dur, et puis nous avons là une forte responsabilité. Donc, Am Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à cause des Juifs ou grâce aux Juifs. Hein, c'est la faute. Comme on dit des coiffeurs, des Juifs, non, c'est plus les coiffeurs. Laissez-les tranquilles maintenant, les coiffeurs. C'est la faute des Juifs ou grâce aux Juifs. Lorsque Am Israël est dans son côté, il est high, il est fort, c'est là que le monde entier est fort aussi. Et lorsque l'Am Israël est moins, alors le monde aussi est moins. Donc ça nous donne un peu de force pour nous rendre compte de cette grande Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, donc qu'on puisse tous participer à ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde-ci, c'est-à-dire Bereshit, Bishvil, Am Israël, Bishvil, la Torah, Shnikret, Reshit, qu'à chacun d'entre nous de rajouter un petit peu dans son étude, comme on a vu, Baalé Mikra, Baalé Mishnah, Baalé Halakha, chacun à son niveau ce qu'il peut. Tu peux étudier du Chumash, tu peux étudier une classe, ce qui te parle, ce que tu sens.
J'ai entendu qu'il fallait étudier ce qui nous plaît.
Ce qui nous plaît. C'est marqué En Adam Lomed et Lama Shelibo Chafetz. On peut quand même. Je vais vous terminer sur une petite histoire. Une petite histoire sympathique que j'avais entendue il y a quelques années. C'est une histoire vraie. Par contre, il y avait un juif qui était boxeur de métier. Et il habitait en Amérique, dans un état d'Amérique, et puis il avait un fils qui était en âge d'aller à l'école. Il a cherché pour son fils, lui il n'était pas du tout pratiquant, il était juif, mais pas plus. Il a cherché pour son fils une école. La seule école qu'il a trouvée là-bas, c'est une école qui était un peu trop religieuse à son goût. Mais bon, il n'avait pas le choix. Il a dit, moi je ne vais pas mettre mon fils dans une école non juive. Il a mis son fils dans cette école-là. Alors le fils, lorsqu'il commence à étudier un petit peu, eh bien, petit à petit, il a envie de pratiquer un jour. Il arrive chez lui, ça à la porte, son père le voit avec kippa et tzitzit. Ça, c'était trop. Son père, il lui donne mon coup, il l'allonge sur le tapis, hein, comme ça, comme mon bon vieux temps. Il l'allonge sur le tapis. Le fils, il a tout de suite enlevé son tzitzit, sa kippa, c'est bon, j'ai rien fait. Le lendemain, il arrive à l'école et il est un peu triste. Alors son maître lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte, voilà, hier, je suis venu. Alors le maître lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Ce soir, quand tu rentres à la maison, tu gardes ta kippa et ton tzitzit, mais ce que tu vas faire, c'est que tu sonnes à la porte, et puis vite, tu fais 4 pas en arrière. Et lorsque ton père, il ouvre la porte, tu regardes sa réaction. Si tu vois qu'il se met en colère, tu dis, c'était une blague, tu l'enlèves et c'est fini, tu rentres, et peut-être qu'il acceptera. Bon. Le fils, il a fait ce que son maître lui a dit. Il arrive, il appuie sur le bouton, tout de suite il s'éloigne, son père il arrive, il le voit, et il dit, bon, allez, si c'est ce que tu recherches, allez, bah, c'est pas là, allez, rentre. Maintenant, ce garçon, il a évolué dans l'étude de la Torah jusqu'au jour où il a décidé aussi de faire sa alia, de venir en Israël, d'étudier aussi la Torah en Israël. Et il n'avait pas oublié son père. Tous les quelques temps, vous savez, à la synagogue, il y a des tas de feuillets, feuillets de ci, feuillets de ça. Il prenait, il ramassait tout ce qu'il trouvait dans une enveloppe, il l'envoyait à son père pour qu'il ait un petit contact, un peu de Torah. Un jour, son père, il lit dans le texte, il voit une petite phrase qui lui fait tilt. Le Chafetz Chaim m'avait dit un jour, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir passé 80 ans de sa vie sans avoir étudié ne serait-ce qu'un daf de Gemara, une page de Gemara. Passer sa vie 80 ans sans avoir étudié une page de Gemara. Le père, il dit, c'est quoi une page de Gemara? Moi aussi, je ne sais pas. Et c'est qui le Chafetz Chaim? Je ne le connais pas. Mais quand même, si le Chafetz Chaim, il a dit une telle parole, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans ce daf de la Gemara, hein, puisqu'on rapporte Chafetz Chaim, Chafetz Chaim. Il y avait un jour, je mets une petite parenthèse, il y avait une famille complètement non religieuse, il y avait un enfant qui est sorti, Talmid Chacham. Un jour, son rav lui a dit, quand même c'est assez étonnant, quelles sont les circonstances, comment tu es devenu toi, qu'est-ce qui t'a poussé à l'étude de la Torah? Il a dit, vous savez, je ne sais pas, mais une chose je peux vous raconter. Ma mère, chaque fois qu'elle allumait les nérodes de Shabbat, c'est la seule chose qu'elle faisait, elle allumait les nérodes de Shabbat, elle priait, Dieu, donne-moi un enfant comme Ben Gurion. Il dit, un jour, mon père est revenu à la maison, il a dit à ma mère, c'est marqué dans le journal que Ben Gurion a été voir rencontrer le Chazon Ish. Elle dit, je ne sais pas qui c'est ce Chazon Ish, mais si Ben Gurion a été le voir, c'est que c'était certainement quelqu'un de grand. Depuis ce jour-là, ma mère a prié, Dieu envoie-moi un enfant comme Ben Gurion et comme Chazon Ish. Elle en a eu un qui a été Talmid. Donc le père, il se dit, bon, étudier de la Gemara, qu'est-ce que c'est? Moi, j'approche dans l'âge, et puis bon, bah, Chafetz Chaim. Donc, il dit, bah, je vais aller étudier. Il a été dans l'école où avait étudié son fils, il n'a pas la porte, devant le directeur, vous vous rappelez de moi, bien sûr. Oui, écoutez, voilà, j'ai vu que c'est très important d'étudier, qu'on ne peut pas comprendre comment. Bah, je voudrais, moi, étudier la Gemara, mais je ne sais même pas lire. Alors il me dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, ben, c'est simple, j'ai l'intention de venir apprendre à lire. Vous me mettez dans la classe de CP avec les enfants. Il dit quand même, qu'est-ce qui dérange? Vous allez dire que je suis un inspecteur du ministère national de l'éducation. Et le père, il s'est assis ainsi avec les enfants et il a appris petit à petit à l'alphabet. Et il a pu lire, il a pu apprendre un petit peu à traduire, et doucement, doucement de la Mishnah, de la Gemara. Et au bout de 2 ans, il est arrivé à étudier une page de Gemara recto verso. Une fois qu'il a terminé, son rêve a été accompli. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sioum.
Je te rappelle.
Il faut faire une fête de clôture. Seulement le sioum, il se fait seulement lorsqu'on termine tout un traité. Il n'y a pas un daf, il va en faire plusieurs. Non, il a décidé qu'il allait faire un grand sioum. Salle, traiteur, et puis il faut aussi des rabbanim, il faut un peu des drachotes. Il a dit, qui est-ce que je vais appeler? Rabbi Moshe Feinstein. C'est la personne qu'il faut appeler. C'était un des grands décisionnaires en Amérique qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Rabbi Moshe Feinstein. Il appelle Rabbi Moshe, il dit, voilà, Kvod Harav, je fais un sioum d'un daf, Baruch HaShem, après 2 ans d'études, je voudrais vous inviter au sioum. Le Rav a posé quelques questions. Bon, il a compris ce qu'il a. Il a dit, très bien, je viens. Il s'est déplacé. D'après l'histoire, entendu, il a fait même 3-4 heures de voyage pour y arriver. Mais il est arrivé à ce sioum. C'est l'histoire voyage. Et il est arrivé au sioum, donc une belle table, et rabbanim, des drachotes, etc. Ah, magnifique, cet homme-là, il était heureux, heureux, heureux. Comme jamais il n'a été aussi heureux de ça. Et puis, il est parti dormir tranquillement. Seulement le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Il avait terminé sa vie avec ce daf de Gemara.
Wow.
Le lendemain, tous les chachamim qui étaient là sont venus pour l'enterrer. Et il y a un, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit, bien sûr, on n'est pas dans le ciel, mais qui sait si Dieu ne lui a pas donné encore 2 années supplémentaires à sa vie pour qu'il puisse accomplir ce vœu qu'il voulait d'avoir étudié. Donc, Bezrat, chez nous, on se souhaite bien sûr 120 ans, pas un daf, mais des dizaines, des milliers, des centaines, une fois, deux fois, trois fois, genre plusieurs fois d'Afa Yomi. Mais en tout cas, ça montre combien, ma foi, avec une volonté, combien on peut arriver pour être né cette mois. Et comme vous le savez, Ta'amu, Uru, il faut goûter. Il faut goûter. Lorsqu'on goûte, tout de suite, on est attiré par cette.
C'est comme un petit four.
Donc, à Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on puisse, Bezrat Hashem, tous se renforcer un peu dans l'étude. Et puis, on rajoute tous un petit quelque chose. Et ceci apportera de bien pour nous-mêmes, pour notre famille, Bezrat Hashem, et pour tout Am Israël, et pour toute l'humanité au passage.
Chazak Baruch.
Daraba.
J'ai une petite question. Au tout début, vous avez dit Bereshit. Réchit, c'est Israël, c'est la Torah. Mais c'est aussi d'autres choses. Il y a aussi Amalek, je crois qu'il y a qui s'appelle Réchit.
C'est vrai, vous avez raison que Réchit est marqué sur Réchit Goïm Amalek. C'est une bonne question. Réchit ne dit pas qu'il a été créé. Bon, c'est sûr qu'il doit y avoir un lien, hein, que le Réchit Amalek, il est là pour. Mais bon, c'est à réfléchir. Hein. C'est une bonne question.
Bravo,
Michel. Il faut voir quel est le lien là avec donc la création et Amalek. Qu'est-ce qu'il a lui dans le but de la création? Il a aussi un rôle important à jouer. C'est sûr qu'Amalek il a un rôle comme on le voit, hein, puisque le chef d'Akadosh Baruch Hu ne sera Shalem que avec une fois qu'Amalek sera allé jusqu'à la fin. C'est une bonne question, hein, c'est effectivement.
Oui, moi j'ai une question. Si l'étude de la Torah permet de profiter des bienfaits et que la diaspora a eu pour objectif de faire profiter l'ensemble des peuples de ces bienfaits, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'aliyah?
Non, c'est pour cela que j'ai précisé qu'il y a certaines, il y a eu certains moments comme ça. Il y a eu des moments ou de galoute, et il y a eu des moments où Am Israël se retrouve sur sa terre. Dans les moments où Am Israël se retrouve sur sa terre, on est bien obligé de dire que le tikkun du monde se fait, on va dire, à travers Am Israël sur sa terre. C'est vrai que ce passage est marqué au moment de la galoute, puisque je vous ai éparpillé dans les quatre coins de l'heure. Lorsqu'il n'y avait pas de galoute, on était tous réunis. Au moins au temps où Am Israël est rentré dans sa terre, et premier Beth Amikdash, où là on ne voit pas, hein, qu'il y avait de juifs en dehors du monde d'Eretz Israël. Au deuxième Beth Amikdash, bien que Am Israël est revenu sur sa terre, il y en avait encore qui étaient en dehors. Mais c'est vrai que, donc certainement que pendant cette période-là, le tikkun du Am Israël se fait.
C'est une petite déduction. Quand on lui demandait pourquoi il n'allait pas. Pourquoi il n'allait pas s'en aller. Le rabbi Lubavitch, quand on lui demandait pourquoi il ne faisait pas son alia, il disait « Je ferai mon alia quand le dernier juif du monde sera en Israël. » C'est un peu la même chose.
Vous avez dit que la terre tremblait au moment où Hachem cherchait un peuple pour prendre sa Torah. Il a proposé à tous les peuples. Fallait-il que ce soit le peuple juif qui choisisse la Torah ou n'importe quel autre peuple aurait fait l'affaire?
Si vous posez une très bonne question. Disons, on va poser peut-être la question différemment. Et si un autre peuple avait accepté
oui.
La Torah,
d'accord.
Alors, le projet divin aurait été différent?
C'est la question.
Est-ce
qu'on ne peut imaginer les...
On ne peut pas imaginer étant donné qu'ils ne l'ont pas accepté. Vous savez, un jour, j'avais posé la question à un de mes maîtres, le Rav Moshe Shapira. Je lui ai posé la question, il disait que donc c'est marqué que Adam Arishon, il a parlé de la Malchut Bet David, dans le besoin de Malchut Bet David. Je lui ai dit, mais si Adam Arishon n'avait pas donné les 70 ans à David Amelech, il n'y aurait pas eu de Malchut Bet David. Pourtant, la Malchut Bet David fait partie du projet divin. Donc, il m'a répondu de cette manière en disant, mais puisqu'il lui a donné et que Dieu savait qu'il allait lui donner, donc c'est ainsi que. Le projet avec la Malchut Bet David.
Heureusement, a posteriori.
On rentre dans un autre sujet qui est le projet divin et la Bechira de l'homme.
Voilà, prédestination et paradis. Qui est vraiment
le projet divin et le libre arbitre. Ouais. C'est-à-dire, on a le libre arbitre.
Mais Dieu a prévu dans son...
En l'occurrence, le peuple juif ne l'a pas eu, puisque Dieu l'a forcé à prendre.
Oui et non, parce que on ne l'a pas eu, mais on avait déjà dit Naase Venishma. Donc on revient à la question. Alors si on a dit Naase Venishma, pourquoi on nous a forcé? Mais parfois, il faut mériter d'être forcé. Pas tout le monde est méritant d'être forcé. C'est aussi une question qu'on pose là dans la
Kabbalah. Ils voulaient que ce soit pas plus juif.
Ils n'ont pas forcé, mais eux, ils n'ont pas dit Naase Venishma pour qu'on les force après. Mais c'est vrai que c'est un sujet, donc je vous dirai en un mot que Akadosh Baruch Hu, qui sait à l'avance ce que l'homme va faire, utilise parfois le libre arbitre de l'homme pour mener à bon terme son projet divin. Mais bon, ça c'est une autre. Peut-être qu'on pourrait proposer un de mes sujets, la Yédia d'Hachem et le projet divin. La question, la fameuse question du Rambam, Dieu sait à l'avance ce que je vais faire, oui, donc je ne peux pas faire autre chose que ce qu'il sait, donc je n'ai pas le libre arbitre. C'est la question du Rambam. Vous la connaissez, cette question?
Bien sûr.
Bon, on peut, les Rat Hashem, développer une autre fois
si l'étude de la Torah par les Juifs apporte tellement au monde, est essentielle pour le monde, et qu'on a été disséminé partout pour ça, ok qu'on n'ait pas un salaire immédiat, qu'on n'ait pas une récompense, mais pourquoi le retour a été aussi négatif? Pourquoi les persécutions existent?
Voilà. Vous posez une... Je ne sais pas si elle est vraiment... Votre question, elle est générale. Elle n'est pas vraiment liée avec... Vous posez une question simple. Puisque le Am Israël, c'est le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on a droit à tant de persécutions? C'est un peu... Je vais vous donner une réponse rapide, mais concentrée, avec un petit remèze dans le passage. Vous savez combien on a eu de massaot, combien dans le désert on a eu de campements dans le désert? On en a eu 42. Il est rapporté au nom du Lechem. Lechem qui était un des grands Mekoubal, Rabbi Shlomo Eliashiv, le grand-père du Rabbi Eliashiv. Il dit comme ça, il dit que les 42 massaot, c'est en vérité ce que l'homme dans sa vie et le Ham Israël dans toute la durée du Ham Israël va vivre, 42 massaot. Dans les 42 massaot, il est divisé en 21 et 21. Il y en a 21 où le Ham Israël se trouve dans ses moments forts et 21 où le Ham Israël se trouve dans ses moments bas. Et il dit que c'est Keneged, dans les tfilines du Roche et tfilines du Yad, de la main, il y a, et dans les tefilines de la tête, 21 fois le nom d'Hachem, et dans les tefilines de la main, 21 fois le nom d'Hachem, qui fait 42. Et les 42 massaot sont en rapport avec les 21 de la tête et 21 du bras. Dans les 21 de la tête, il y a marqué que les goïms verront les tefilines de la tête et auront peur de nous. Et les tefilines du bras, c'est marqué « Vaya lecha leot aliadecha », ça sera pour toi et pas pour les autres. C'est-à-dire que nous avons dans le Ham Israël plusieurs périodes. On a 21 périodes dans l'histoire du Ham Israël où le monde dira « Ah, Ham Israël, qu'est-ce que c'est magnifique, ça c'est le peuple, ça c'est le peuple d'Hachem », lorsque le Ham Israël sera dans toute sa beauté, toute sa splendeur, et c'est là que, comme les tefilines, ils vont voir et ils vont craindre Dieu. Mais il y a 21 passages aussi où le Ham Israël, ça sera « Vaya lecha leot » pour toi. Toi, tu verras, les autres, ils ne comprendront pas. Le monde entier dira, c'est ça, mais toi, tu comprendras, parce que toi, l'Echa Le'ot, tu sais que Akadosh Baruch Hu est avec toi dans toutes ces... Et c'est vrai que si vous découpez chaque passage, vous regardez juste un malheur du Ham Israël, vous dites, je veux dire un mot, c'est Chilul Hashem, c'est pas possible. Vous regardez... Mitzrayim, Chorban Bet Hamikdash, destruction du Bet Hamikdash, la Shoah, les Xerot, l'Inquisition, les croisés. Mais il ne faut pas regarder chacun, il faut regarder tout, toute la mappa, il faut regarder tout. Et lorsqu'on regarde les 42 Massaot, c'est là qu'on a la vue d'ensemble et c'est là qu'on comprend quel est le projet. Donc c'est vrai que nous avons des difficultés à comprendre ce que Hachem a nous, et si on est le peuple de Ham Israël, d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi
dans telle et telle période de l'histoire du peuple juif, on a été tellement frappé. Mais ça, c'est une question que lorsqu'on regarde juste ce moment-là, et puis vous remarquerez qu'il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que lorsqu'on regarde, pour ceux qui ont un peu cherché dans l'histoire du Ham Israël, parce que vous regardez dans la Gemara, on voit qu'il y a eu des millions de morts déjà à l'époque du Khorban, de la destruction du Beth Amikdash. Bien sûr, on dit que, par exemple, la Shoah, c'était la plus grande catastrophe qui s'est abattue sur le Ham Israël. Mais d'un autre côté, lorsque vous regardez, il y a l'air d'avoir eu aussi des catastrophes qui n'ont pas l'air d'être moins grandes que celle-ci. Alors peut-être par rapport au monde dans lequel nous vivons, on va relativiser.
Moins, c'était moins grand par rapport aux moyens qui n'avaient pas de nous éliminer.
Alors peut-être aux moyens. Donc comme vous dites, aux moyens qui n'avaient pas. Donc peut-être... Ham Israël a toujours eu dans ses... A toujours eu, c'est vrai, Vaya lecha leot. C'était dur, mais on savait, on va dire, déchiffrer à travers ces moments-là qu'Akadosh Baruch Hu était avec nous. Pourquoi? On ne peut pas toujours savoir pourquoi. Mais... on avait la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu était avec nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long du Ham, de l'histoire du peuple juif. Je ne pense pas qu'il y ait eu un peuple qui soit un jour. Mais le fait que Ham Israël soit toujours existant, c'est la plus grande, on peut dire, preuve que le Ham Israël est le peuple chéri d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas eu un seul peuple qui a subi ce que nous avons subi et qui est encore là, et comme nous le voyons aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, de voir chaque morceau, de les découper, de dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe, c'est vrai que c'est une difficulté, mais lorsqu'on regarde tout, on voit que Ham Israël, après tout cela, il est quand même là. Là, c'est le plus grand Kiddush Hashem, on voit qu'on est effectivement le peuple élu. Bah, brièvement.
Est-ce que quelqu'un n'a pas fait un vide ?
Merci beaucoup. Hein. C'est dit,